À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Stéphane Honoré-Rousseau, un historien, il en faut.
Quatrième épisode, quelle histoire ? Bonsoir Stéphane Audouin-Rousseau.
Bonsoir.
Je reprends ici le titre du récit de filiation dont nous parlions au premier épisode et qui raconte l'histoire de votre famille avec la Grande Guerre, l'histoire de l'incompréhension qui s'est installée entre vous, entre votre père d'abord et votre grand-père à propos de la guerre, puis qui s'est reproduite toujours à propos de la guerre entre votre père et vous, ce père à qui vous faites une déclaration d'amour posthume dans ce livre et auquel vous rendez hommage. Quelle histoire, c'est ce qu'il s'est écrié dans la voiture qui l'emmenait vers l'hôpital à la veille de sa mort en 1985. Mais au lieu de mettre un point d'exclamation, j'ai mis un point d'interrogation aujourd'hui parce que j'aimerais interroger votre façon de faire de l'histoire, votre méthode d'historien, et puis peut-être aussi votre vision du rôle de l'historien dans la cité. Alors pour commencer, hier, vous nous avez raconté votre découverte du Rwanda, du génocide des Tutsis. Vous nous avez dit comment cette expérience vous avait fait dérailler, sortir de la routine de la Grande Guerre. Dérailler aussi bien par le sujet, bien entendu, mais peut-être aussi par votre façon de travailler, de considérer les sources, peut-être de passer, je ne sais pas, des livres au terrain. Alors, expliquez-nous comment vous travailliez avant le Rwanda. Quelles étaient vos méthodes de travail ?
À dire vrai, je suis à l'origine un historien de formation très classique. J'étais étudiant à l'université de Paris-Nanterre, c'est comme ça qu'on l'appelait, école René Raymond, tout ça après Sciences Po, vous voyez, donc voilà, histoire politique, histoire très française, donc les archives et rien d'autre. C'était à peu près, pour résumer, ça veut pas dire que cette histoire était sans valeur, mais enfin, elle était quand même dans ses méthodes et dans ses perspective quand même assez étroite au fond.
Académique.
Oui, très académique, assez étroite, même si René Raymond avait et les gens qui travaillaient avec lui, comme Jean-Jacques Becker précisément, qui a été mon directeur de thèse, au fond avait intégré beaucoup d'aspects de l'école des annales et avait au fond pratiquait une histoire très rafraîchie par rapport à une histoire politique traditionnelle. Mais enfin, ça restait une histoire française où le politique était très dominant. La guerre existait, bien sûr, mais d'une certaine manière. Là aussi, c'est beaucoup plus une perspective d'en haut, une perspective politique, que la perspective que j'ai moi-même adoptée plus tard. J'ai démarré comme ça. Bien sûr, j'avais pas les moyens au départ de faire autre chose. Ce qui a vraiment changé les choses pour moi, de manière définitive, c'est quand dans la seconde moitié des années 80, début des années 90, j'étais suffisamment jeune historien pour pouvoir changer en quelque sorte et m'ouvrir. Ça a été la réalisation de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, donc ce musée pour lequel il n'y avait pas de collection de départ et où un groupe d'historiens, parmi lesquels j'étais le plus jeune, était appelé pour, bâtir le discours historique du musée, mais aussi pour conseiller la conservation, en particulier pour l'achat des collections. Car il n'y avait pas de grande collection constituée qu'il n'y aurait eu qu'à mettre en scène, en quelque sorte. Il fallait constituer la collection à partir de choix historiographiques. Alors là, stupeur, car on s'est rendu compte, les historiens seniors pour la plupart et moi comme historien junior, que nous ne pouvions pas, de manière pertinente, conseiller la conservation sur les achats d'objets à faire. Tout simplement parce qu'on ne connaissait pas ce qu'on appellerait la culture matérielle de la Grande Guerre. Une culture matérielle extraordinairement riche parce que ce sont des puissances industrielles. Évidemment, il y a tout ce qui concerne le monde du front, tout ce qui concerne le monde de l'arrière, tout un artisanat, une production massive pendant ces 4 années et demie. Et donc, nous ne savions pas quoi conseiller. Et de manière très empirique, les objets ont commencé à rentrer. Et ils étaient stockés à Amiens, à la conservation, aux archives départementales, et à cette,
quand un musée. Pardon, je vous interromps. Quel type d'objet?
Alors, bien sûr, les objets du monde militaire, les armes, les uniformes. Mais c'est très important, les armes et les uniformes. Bien sûr, on ne peut pas faire une histoire de la guerre sans s'occuper des objets pour la guerre. C'est absurde. Et puis il y avait cette masse évidemment d'objets du monde de l'arrière, par exemple la vaisselle patriotique, surabondante bien sûr, les objets de deuil.
Une vaisselle patriotique, c'est une vaisselle
avec l'effigie du général Joffre, de Hindenburg, du Kaiser et de François Joseph, etc. Mais qui dit quelque chose, hein, qui dit quelque chose de ce qui pouvait plaire, hein, aux contemporains. Il y avait, bien sûr, les objets de deuil, hein, que j'ai découverts, les objets du religieux, que personne ne connaissait, que nous avons découvert, qu'Annette Becker en particulier a découvert, les objets de l'enfance. C'est là que j'ai découvert que l'enfance n'était pas, comme dans nos sociétés, tenue si possible à l'écart de la guerre, mais au contraire intégrée le plus possible dans la guerre, parce qu'il s'agissait, hein, évidemment, de forger, à travers la pédagogie de la guerre, de forger les adultes de demain.
Donc c'était les jouets, les bandes dessinées, les
livres pour enfants, etc. Et c'était là aussi une production surabondante. Et donc c'est l'effet de retour des objets sur l'historien. Hein, je l'ai dit, je crois déjà, objectum, ça veut dire jeter devant, d'où le mot objection en français. Les objets étaient jetés devant nous, avec évidemment des découvertes très très surprenantes et qui à l'époque très surprenantes et qui m'ont énormément apporté. Par exemple, les armes de corps à corps, donc des soldats. On découvrait des matraques de tranchées, des poignards de tranchées, parfois faits par les soldats eux-mêmes, à leurs mains, selon leurs besoins, et d'un seul coup, arrivait devant nous, devant moi, une guerre qui n'était pas dans les livres. Ni dans les livres des historiens, ni dans les livres des soldats. Une guerre cachée, une guerre interpersonnelle, d'une extrême violence, tout à fait minoritaire, bien entendu, hein, par rapport à la guerre industrielle. La guerre de 14, c'est d'abord une guerre industrielle. 70 à 80% hein, des blessures sont infligées par l'artillerie. Mais sous cette guerre industrielle, bien cachée, et une autre guerre, hein, qui était celle des corps à corps, très rare d'ailleurs ces corps à corps, mais enfin des corps à corps en tout cas imaginés, et pour lesquels les soldats se préparaient. Évidemment, ça change la vision de ce qu'était la brutalité de guerre. Ça l'enrichit et, d'une certaine manière, ça la noircit, hein, également. Mais d'autres aspects, je crois, étaient très importants. Par exemple, évidemment, puisqu'il y avait des uniformes. Une fois que les objets sont vraiment dans un musée, on peut plus y toucher. Mais à l'époque, on y touchait comme on voulait. Ça paraît scandaleux d'ailleurs, hein. On ne mettait pas de gants et voilà, et on faisait des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, comme d'essayer un uniforme de soldat. Ben, j'ai jamais pu rentrer dans aucun uniforme de soldat de la Grande Guerre. Pourquoi ? Ben, parce que découverte, leur corps n'était pas notre corps. Il y a rien de plus faux en histoire que de penser que les êtres humains sont toujours identiques de période en période, voilà, et que les corps seraient des corps mannequins qui seraient simplement habillés différemment, mais qui auraient les mêmes gestes, les mêmes gestuels, les mêmes pratiques motrices. Non, pas du tout. À un siècle de distance seulement, ces corps étaient différents. Hein, et la traduction de cette différence, c'est que on ne pouvait pas entrer dans leurs uniformes. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la corporéité, hein, de la Grande Guerre, et de prendre la question de la guerre par le corps et par les objets. Les corps, les objets, ça va ensemble. Il n'y a pas de corps humain sans objets. Hein, nous sommes entourés d'objets et nos corps restent informés, si je puis dire, hein, par les objets qu'ils ont portés, qu'ils utilisent tous les jours, même quand ces objets ne sont pas là. Et donc, ça m'a donné, et c'est là que j'ai commencé à glisser, si vous voulez, vers une histoire plus anthropologique, hein, de la guerre, ce qu'on appelle en France une anthropologie historique, on pourrait tout aussi bien dire une histoire anthropologique, hein, qui fasse la part donc de la matérialité, des matérialités, on devrait le dire au pluriel, des matérialités, de la corporéité, hein, de l'expérience de guerre. Et ça, c'est, je pense, ce que le musée m'a apporté, donc très loin des sources écrites, sans pour autant, évidemment, les négliger, car en fait, dès lors que vous entrez dans cette question de la corporéité, dans cette question des objets, dans cette question des matérialités, vous lisez autrement les sources écrites.
Comment ces objets, vous disiez, je les ai découverts, on les a découverts, puisque vous êtes toute une équipe hein, à Péronne. Vraiment, concrètement, êtes-vous allé les chercher? Est-ce qu'ils sont venus avec vous par des gens, par des familles? Enfin, voilà.
C'était, en fait, les historiens, nous ne faisions à peu près rien, à part notre collègue allemand Gerd Krumreich, qui lui était un collectionneur d'objets, pas d'objets de guerre d'ailleurs, hein, collectionneur de machines à écrire anciennes, et qui aimait donc chiner un peu partout dans toute l'Europe, et qui donc parfois a indiqué hein, de très beaux objets de la Grande Guerre que le musée donc se chargeait ensuite d'aller acheter. Mais il y avait des équipes de recherchistes, c'est comme ça qu'on les appelle, de recherchistes qui en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ailleurs, eh bien cherchaient les objets, les ramenaient en quelque sorte au musée. Bien entendu, quand un grand musée comme l'Historial se crée avec l'achat de milliers d'objets, ça fait monter les prix mondiaux, si vous voulez, sur l'objet de la Grande Guerre de plus d'un tiers, hein, parce que tout le monde comprend qu'il y a une demande et donc l'offre se manifeste aussi. Hein. Beaucoup de collectionneurs venaient vers nous pour nous proposer hein, des objets de qualité, parfois de très grande qualité. Et donc en fait, nous les historiens, nous avons fait très peu. Les objets venaient à nous.
Vous ouvriez vos bras.
Voilà, on ouvrait exactement. Hein, on ouvrait nos bras et on voyait arriver. Hein, c'est un moment inoubliable pour un historien d'un sujet comme la Grande Guerre de voir arriver des objets qu'il ne connaissait pas et qui modifiait en permanence sa vision, lui suggérait des questions nouvelles, le contredisait, objectum, là encore, objection. Hein. Pour résumer, je dirais que les objets m'ont tout appris.
Stéphane Audouin Rouzeau, on est chez vous et dans votre salon pour enregistrer ces avoies nues. Et en montant l'escalier, on est passé par votre bureau en bas. Sur la table de votre bureau, il y a une lampe. La lampe est faite, je crois que c'est en bronze.
Oui, enfin, c'est de la faux bronze, en fait. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de régule, je crois, quelque chose comme ça.
Elle représente un soldat en armes qui a l'air d'être un soldat de la Première Guerre mondiale.
Ah, il l'est, indiscutablement. C'est un soldat de monument aux morts, disons, un soldat victorieux qui porte à l'origine probablement la torche de la victoire, hein, donc dans sa main.
Et dans le salon où on enregistre ces émissions, il y a un tableau. Et j'aimerais que vous nous disiez quelques mots de ce tableau, qui est aussi un tableau qui représente une scène de la Première Guerre mondiale.
C'est difficile de le décrire, c'est un tableau de Harold Hume Piffard, un franco-anglais qui s'appelle « La défense de la famille ». C'est un tableau que j'ai acquis grâce à un ami qui me l'avait signalé alors que je rédigeais justement un livre sur la question du viol de guerre. Qui est un livre qui est paru en 1995 et où, par miracle, les éditeurs ont horreur de ça, j'ai pu imposer la couverture en proposant que ce tableau, justement, figure sur le livre. Et donc, on y voit, c'est une scène tout à fait étonnante, donc l'intrusion de deux Allemands, un sous-officier probablement et un simple soldat dans une salle à manger bourgeoise.
On les reconnaît à leur uniforme, voilà, à leur casque.
Uniforme, le casque à pointe, et une femme donc qui tient contre elle sa petite fille, donc qui est apeurée, et qui brandit donc un revolver donc sur le soldat allemand. Et donc c'est un tableau étonnant parce que de toutes les images d'intrusion et de violence sexuelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, de toutes les images qui ont pu être réalisées pendant la Grande Guerre, en France en particulier, hein, il ne s'agit pas uniquement de propagande ici, les troupes allemandes à l'été, à l'automne 14, se sont adonnées en effet hein, à des viols de masse, donc en Belgique et dans le nord et l'est de la France, en même temps qu'ils assassinaient environ 5 à 6 000 civils, hommes, femmes et enfants, eh bien c'est la seule image de ce type où une femme se défend et où elle n'est donc pas une simple victime, mais où elle renverse le pouvoir en quelque sorte hein, au détriment hein, de l'agresseur. J'ai cru dans un premier temps naïvement que c'était un tableau fait par une femme, ce qui n'est pas du tout le cas. Peut-être est-ce un tableau féministe, je ne le sais pas, mais en tout cas c'est une image extraordinairement originale et ce tableau donc de très belle facture, évidemment comme vous en doutez, j'y tiens beaucoup.
Stéphane Audouin-Rozoul, il y a un deuxième aspect que je voulais aborder aujourd'hui dans cette émission que j'ai intitulée « Quelle histoire ?». C'est donc la place, le rôle de l'historien dans la cité. Vous avez été amené à prendre position directement, à vous engager à partir de 2014, beaucoup plus sur le Rwanda que sur la Grande Guerre et les histoires liées à la Grande Guerre avant. En 2014, vous aviez signé une pétition dans Libération. Puis en 2017, vous aviez écrit que seule une commission d'historiens indépendants ayant accès aux archives de l'État pourrait crever l'abcès du Rwanda dont on a parlé hier, et peut-être que ça a donné lieu à la commission Duclert. Vous estimez que sur la question du Rwanda, vous avez complètement changé votre vision de l'historien, que vous avez été amené à conduire, à mener, je ne sais pas, un combat pour que la recherche soit faite, pour que le discours de vérité soit établi, comme vous n'aviez jamais dû le faire avant?
Je crois que c'est un peu ça, en effet. Je parle un peu plus loin. Les historiens savent que tout discours de sciences sociales est une prise de parole dans la cité. Nous le savons. Ça fait partie des bases du métier. Mais un discours est généralement assez discret, à bas bruit. Il est vrai que, par exemple, participer à la mission du centenaire pendant ce très long centenaire, qui était un événement également très politique, hein, qui a concerné finalement trois présidents, hein, Nicolas Sarkozy, François Hollande, puis Emmanuel Macron, ça n'est pas neutre. Hein, ça n'est pas neutre. Vous êtes amené à réagir sur les plateaux de télévision, au discours du président de la République, etc., à donner votre opinion. Donc, vous êtes déjà dans une situation d'intervention, mais vous restez en quelque sorte sur un pupitre historien assez strict dans votre zone de spécialité. Et donc, les effets de ces prises de parole restent limités, on reste au fond dans un cadre assez professionnel. Mais on glisse vers une forme d'histoire publique, hein, que je ne récuse pas du tout, hein, qu'il faut savoir faire. En termes d'intervention dans la cité, ce n'est pas du même ordre que d'intervenir sur la question du Rwanda. C'est vrai que pour le Rwanda, après avoir pris contact, comme j'ai pu vous le dire déjà, avec cet objet tout à fait atroce, tout à fait nouveau pour moi, il m'est apparu qu'il y avait deux choses qui étaient nécessaires de faire. La première chose, c'était, j'ai jamais trouvé de meilleur mot, d'habiliter ce génocide dans la société française. Habiliter au sens de lui donner une place, hein, équivalente, si possible, hein, à d'autres génocides du XXe siècle, éviter qu'il soit marginalisé, oublié, laissé de côté. Il y avait un déficit cognitif, il y en a toujours un d'ailleurs, massif. Hein, vous pouviez vous trouver c'est une expérience que j'ai eue souvent, dans un dîner de gens cultivés, informés, qui vous demandaient quelle était la date du génocide en question et qui avait tué qui. Vous imaginez bien que qui aurait osé faire ça, hein, pour les Juifs d'Europe, qui aurait osé faire ça pour les Arméniens. Mais pour les Rwandais, ça n'était pas forcément un problème. Les gens n'avaient pas l'impression de se ridiculiser en vous posant une telle question. Donc, habiliter ce génocide. Je pense que globalement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais sur ce plan, je pense qu'on a réussi. Pas seulement les historiens, les réalisateurs, les créateurs, les romanciers, etc. On a les journalistes, bien sûr. Hein, je pense qu'on a réussi cette opération d'habilitation, me semble-t-il. Le deuxième problème, c'était évidemment la responsabilité française. Je fais partie de ceux, pour reprendre une phrase du rapport Muse, qui est le deuxième rapport, le rapport qui est paru, réalisé par une équipe en partie américaine, en partie rwandaise, donc à la demande du gouvernement rwandais, et qui est paru 3 semaines après le rapport français, le rapport de la commission Duclert, donc en 2021, disait « la France a rendu possible un génocide prévisible ». Je pense que c'est un résumé parfait de ce qui s'est passé. Et ça, évidemment, c'était très difficile de le faire admettre, hein, de lutter, hein, contre ce mur devant lequel nous étions, qui prétendait que finalement la politique française avait été, parfois, certains disaient, au-dessus de tout éloge, que la France avait tout fait, hein, ce qui était en son pouvoir pour éviter une chose pareille, qui était d'ailleurs la seule à être intervenue à travers l'opération turquoise, hein, de la fin du mois de juin 1994. Et donc, que vraiment, hein, les reproches faits à la France étaient, et à l'armée française aussi, étaient intolérables. Pour moi, ça a été une situation très difficile, parce que, bon, je peux peut-être le dire, bon, je me considère plutôt comme un conservateur français, hein, bon, bien que je pense suffisamment éclairé et suffisamment sceptique pour que mes propres idées soient tolérables pour ceux qui ne les partagent pas. Voilà, j'appartiens à un monde où, bon, la mise en cause, hein, du pays auquel on appartient ne va pas forcément de soi. Et là, elle n'est pas de soi chez beaucoup de mes amis. Le Rwanda est un sujet sur lequel on se fâche avec beaucoup d'amis. Et donc, progressivement, j'ai considéré qu'il fallait effectivement vider cet abcès, comme un peu sur le mode, le même mode que l'abcès de l'Algérie a été progressivement, enfin, vidé au sens où, aujourd'hui, plus personne, hein, ne conteste les pratiques de torture et les pratiques de corvée de bois, c'est-à-dire d'assassinat, donc commis par l'armée française en Algérie.
On en trouverait bien quelques-uns quand même, mais bon, peu importe.
Oui, mais maintenant, depuis les travaux de Raphaël Branch et d'autres, la question est réglée. La question est réglée, elle peut plus vraiment être sérieusement discutée. Eh bien, je me disais, mais pour le Rwanda, il faut en arriver à ce point. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et effectivement, à partir de 2014, du 20e anniversaire, je me suis engagé de plus en plus dans ce combat dans lequel j'aurais préféré ne pas avoir à m'engager, à dire vrai.
Et puis surtout, ce combat que vous avez mené vous a conduit aussi à témoigner pour la première fois en tant qu'historien à un procès. Vous l'avez fait deux fois. Vous l'avez fait en 2014 et vous l'avez fait en 2016, si je ne m'abuse.
Je l'ai refait ensuite pour un procès suivant. C'est le procès Simi Kangwa, hein, effectivement. 2014 en première instance, 2016 en deuxième instance. Et puis, il y a eu un deuxième procès où j'ai dû témoigner également. C'était le procès Tito Barahira, un ancien bourgmestre, un bourgmestre en activité.
Vous n'êtes pas le premier historien, hein, à témoigner dans les prétoires. D'ailleurs, des livres d'historiens ont été écrits sur le sujet, de Jean-Noël Jeannonnet, Henri Rousseau, Olivier Dumoulin. Quelle a été votre expérience de chercheur dans un prétoire?
Si vous voulez, je désapprouve la présence des historiens dans le prétoire. C'est bien fâcheux pour quelqu'un qui finalement l'a fait. Je partage complètement le point de vue d'un Henri Rousseau, par exemple, hein, qui est à la fois un ami et un historien pour lequel j'ai une très grande admiration et dans lequel j'ai une très grande confiance. Théoriquement, je partage son point de vue. Mais quand, pour le premier procès d'un génocidaire rwandais réfugié en France, donc le capitaine Simi Kangwa, donc était un capitaine des services de sécurité, hein, et aussi, semble-t-il, un tortionnaire, hein, dans son propre pays, quand j'ai été appelé donc à témoigner, j'ai considéré qu'il n'était absolument impossible de me dérober. D'abord, vous n'avez pas le droit de vous dérober. Normalement, c'est là que vous sentez ce que c'est que la citoyenneté. Hein, vous devez témoigner sous menace d'amende, le président ou la présidente du tribunal peut d'ailleurs requérir la force publique pour vous amener de force, hein, au tribunal. Bien entendu, si j'avais dit, écoutez, je souhaite ne pas témoigner, etc., je pense qu'il y aurait eu un moyen.
Vous n'aurez pas passé les menottes quand même.
Voilà. Mais enfin, néanmoins, vous sentez cette contrainte, hein, beaucoup plus forte, par exemple, que un autre moment clé de la citoyenneté, qui est le vote, par exemple, hein, qui est là. Quand il témoigne au tribunal, c'est tout à fait autre chose. La deuxième chose, c'est que j'ai ressenti une anxiété extraordinaire. Parce que d'abord, je ne l'avais jamais fait. Et cette anxiété s'est tout à fait confirmée au moment où vous êtes jeté, donc en quelque sorte, dans l'arène. Hein, vous êtes enfermé dans un petit local juste avant. On vous appelle et vous arrivez dans le tribunal. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. D'abord, c'est un lieu finalement d'une grande violence. Hein, avec un accusé derrière une vitre, sur votre gauche, un peu derrière vous. Vous êtes en situation en quelque sorte dominée, puisque les juges, les jurés, l'accusation, la défense sont légèrement en surplomb par rapport à vous. Hein. Vous êtes, si je puis dire, en civil, face à des gens qui sont des magistrats ou des avocats qui sont dans leurs habits professionnels. Vous vous retrouvez un peu comme un civil dans une caserne. Vous demandez ce que vous faites là. Et vous vous rendez compte, évidemment, pour un professeur, c'est toujours très intéressant, que ce n'est pas vous qui êtes le maître du temps. On va vous laisser à la barre, debout, autant de temps que ce sera nécessaire. Et c'est très long. C'est très long et vous sentez à ce moment-là terriblement votre responsabilité. Vous êtes témoin dit de contexte, C'est un titre qui n'existe pas vraiment, mais c'est ce que ça veut dire. Ça, vous intervenez en début de procès et vous êtes là pour, au fond, expliquer une configuration générale, l'expliquer au tribunal, l'expliquer au juré en particulier. Et vous n'avez pas le droit des notes. Vous devez, donc c'est votre parole uniquement qui compte. Et c'est une situation extraordinairement difficile, extrêmement épuisante. Et en outre, alors que vous êtes après déjà une heure, deux heures, davantage de témoignages, eh bien c'est à ce moment-là que la défense commence, dans mon cas, à essayer de démolir ce que vous avez pu dire. Et la tension est vraiment exceptionnellement grande, d'autant plus que vous savez que vous êtes filmé, que des chercheurs très vite vont pouvoir avoir accès donc à ce corpus filmique. Il est déjà en cours d'examen, qu'il y a dans la salle des journalistes, des étudiants, des collègues. Et donc vous avez à ce moment-là beaucoup de plomb en quelque sorte sur les épaules.
Vous le referiez ?
Bien entendu. Mais je ne souhaite pas le refaire.
Par devoir, vous ne souhaitez pas qu'on fasse appel à
vous. Je ne souhaite pas du tout le refaire. Dans les procès récents de cette année, eh bien, je n'ai pas été appelé à la barre et je m'en suis félicité.
Est-ce que vous avez eu l'impression, avec cette expérience-là, Stéphane Audouin-Rouzeau, que l'historien servait à quelque chose, si tant est que l'histoire doit servir à quelque chose ?
Je ne pense, en fait, j'ai les plus grands doutes sur cette utilité. Je m'en suis expliqué avec Aurélia Devos, qui était donc vice-procureur, qui dirigeait le pôle crime contre l'humanité, ce pôle qui a eu un rôle d'enquête déterminant pour le jugement des premiers génocidaires à Paris. Je lui disais, mais je comprends pas à quoi j'ai pu servir. Elle me disait, ah si, c'est indispensable. C'est indispensable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui élève le débat et fasse comprendre la configuration d'ensemble.
Et vous ne l'avez pas vécu comme ça ?
Pas du tout. Mais enfin, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge.
Vous la croyez ? Oui, c'est ça, avez confiance.
J'ai confiance.
Merci Stéphane Audouin-Rouzeau. On se retrouve demain pour la dernière de cette série d'entretiens à voix nue. Et nous parlerons du fait guerrier de l'histoire anthropologique ou de l'anthropologie historique de la guerre. À demain.
À demain. Merci.
C'était À Voix Nue, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.